Cinémag avec Cédric Sequinel.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Cinémag, le magazine de tous les cinémas et pour ce nouveau confinement de toutes les séries télévisées. En effet, pour compenser la fermeture des salles et donc l'arrêt des sorties de films, nous allons aussi vous parler de séries récentes, vieilles, mais attention, de bonnes séries, celles que vous pourrez voir et surtout apprécier durant cette période bien morose. Pour rester bien évidemment dans notre thématique, on parlera aussi de films sortis directement sur les plateformes de streaming. Pour ce nouvel opus, je vais donc vous parler aujourd'hui de ma série préférée de l'année dernière, ainsi que d'un splendide documentaire sorti cette semaine sur la plateforme Netflix. Alors c'est parti avec un tout petit peu de musique. Vous n'aurez certainement pas reconnu ce générique dans la mesure où la série dont je vais vous parler est restée totalement confidentielle en France. Il s'agit de la bande originale de la série Watchmen, composée par Trent Reznor, le leader du groupe de métal industriel Nine Inch Nails, épaulé par le DJ Atticus Ross. Le duo avait d'ailleurs déjà gagné un Oscar de la meilleure musique pour le film de Social Network de David Fincher. Alors, Watchmen, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, tout d'abord, Watchmen, c'est une bande dessinée américaine publiée en 1986 par DC Comics. Et là, je vous vois venir. Oui, mais bon, encore un truc sur les super-héros, on en a un petit peu marre. Et puis là, je vais m'opposer en faux, Parce que Watchmen, c'est loin d'être une bande dessinée sur des justiciers colorés et caricaturaux. C'est avant tout un chef-d'œuvre de la bande dessinée, point. D'ailleurs, Watchmen est considéré par beaucoup comme l'un des tout meilleurs récits séquentiels, toutes catégories confondues, primé dans de nombreux festivals américains, mais aussi européens. Créé par le génial scénariste Alan Moore et le dessinateur Dave Gibbons, Watchmen est une uchronie qui se déroule dans un univers où, justement, les super-héros n'existent pas. Enfin, pas comme on le pense, parce que les seuls qui osent mettre un costume sont des humains normaux, comme vous et moi, un peu illuminé et assez stupide pour penser qu'il suffit de mettre un accoutrement coloré pour combattre le crime et résoudre les problèmes de l'humanité. Autant le dire, dans Watchmen, les super-héros entre guillemets sont considérés comme une véritable blague. Jusqu'à ce que l'apparition d'un être omnipotent et omniscient dans les années 60 vienne tout remettre en cause. Véritable réflexion autour du mythe du super-héros, de la mortalité, mais aussi sur la guerre froide et la place des comics dans le monde, Watchmen est une œuvre intense, à plusieurs niveaux de lecture et qui en font un passage obligé pour tout fan de bande dessinée qui se respecte. C'est une œuvre majeure, je vous l'ai déjà dit, et elle peut largement prétendre à une place au panthéon des meilleures histoires jamais publiées. Ni plus, ni moins. Après une adaptation ratée au cinéma en 2009 par le trop premier degré et le trop bourrin Zack Snyder, nous avons cette fois-ci droit à une mini-série en 9 épisodes signée Damon Lindelof pour la chaîne HBO. La chaîne réputée pour la qualité de ses séries, et qui vient d'ailleurs de connaître un très très gros succès avec Game of Thrones. Le créateur de la série, Damon Lindelof, c'est loin d'être un inconnu. On lui doit tout d'abord la série Lost, qui nous avait, laissé un petit peu sur notre faim, il faut bien le dire, mais surtout l'extraordinaire The Leftovers, dont je vous toucherai certainement deux mots dans un futur cinémag. Pour moi, Damon Lindelof, c'est l'un des meilleurs producteurs de séries actuelles, et donc j'attendais énormément de voir son adaptation. Et là, je dois vous avouer que pour une fois, j'ai pas été déçu. Parce que adapter Watchmen, ça relève de l'impossible. La bande dessinée, elle n'a pas été pensée pour une adaptation. D'ailleurs, beaucoup de réalisateurs, tels que Terry Gilliam, ont essayé d'adapter Watchmen au grand écran et ont renoncé parce que c'était trop difficile. De plus, il y a toute une polémique autour du nom d'Alan Moore, le créateur de la série Watchmen en bande dessinée, qui s'est fait un petit peu escroquer par DC Comics, ce qui fait que ses fans de la première heure ne supportent pas qu'on touche à son œuvre. Ça fait donc beaucoup de pression sur Damon Lindelof, et ce dernier réussit quand même l'exploit d'éviter l'écueil de l'adaptation bête et méchante en situant son récit près de 30 ans après la fin de la bande dessinée. Bien loin d'être une suite ou d'une adaptation avec les mêmes personnages, Watchmen la série télé reprend en fait la thématique de Watchmen le comics en l'adaptant à notre époque. Même si les liens entre le comics et la série sont nombreux et vont ravir les fans de la première heure, c'est plutôt un état d'esprit, le fond plutôt que la forme, qu'adapte ici Damon Lindelof. En situant son histoire dans la ville américaine de Tulsa, tristement connue pour ses émeutes raciales dans les années 20 qui ont causé de nombreux morts et de nombreux lynchages, Watchmen nous propose une relecture de l'univers de la bande dessinée sous le prisme du racisme aux États-Unis. Alors, afin d'éviter tout procès d'intention, je vous précise que la série TV Watchmen est sortie bien avant le mouvement du Black Lives Matter, ce qui lui en fait plutôt une œuvre qui avait de l'avance sur son temps, quelques mois. Watchmen, elle a pour protagoniste principale Angela Hubbard, une policière de Tulsa, donc, qui voit sa vie être totalement bouleversée par les héritiers du Ku Klux Klan. Et ce n'est pas facile d'être flic dans ce monde de Watchmen, puisqu'ils doivent désormais cacher leur identité derrière des masques pour ne pas être victimes de représailles. C'est d'ailleurs ce qui est plutôt ironique. Dans la série télé, ce sont les représentants de la loi qui se cachent maintenant derrière une identité secrète. Le meurtre du chef de la police par un vieux monsieur centenaire va entraîner une réaction en chaîne qui va pouvoir mener jusqu'à la fin du monde tel qu'on le connaît. Si le début de la série est très intriguant, on ne comprend en effet pas trop où l'on se situe, quel est le rapport avec la bande dessinée, le lien se fait quand même de plus en plus étroit au fil des épisodes, pour se terminer en véritable apothéose pour le fan de comics. Parce que la série est d'abord superbement bien écrite. Tout a été pensé, réfléchi, et à la fin, tout s'est mis en place. Chaque élément de l'intrigue trouve sa réponse. C'est vraiment très malin dans le scénario, et très précis. Et surtout parce que pour la toute première fois, Watchmen, la série télé, semble comprendre tout ce qui faisait la richesse du comics. Pas de son histoire ni de ses personnages, mais vraiment de sa manière formelle de traiter certaines thématiques. Alors bien évidemment, on reste encore loin de la maestria de la bande dessinée, mais au moins, et enfin, pour une fois, je dirais, nous avons une adaptation qui a compris l'œuvre d'origine et qui adopte une narration de haut niveau. J'ai malgré tout quelques petites réserves sur le jeu de certains acteurs, parfois un peu à côté. Je pense à Jeremy Irons, qui donne un petit peu l'impression de cabotiner, mais c'est un peu le rôle qui vaut ça. De la même manière, j'ai pas été très convaincu par l'actrice principale Regina King, qui je trouve manque parfois de subtilité. Après, une autre réserve, c'est que je ne suis pas certain que les personnes qui n'aient jamais lu la bande dessinée puissent être autant immergées dans l'intrigue que les fans de la première heure. Mais pour moi, ce sont des défauts mineurs qui s'effacent devant la qualité non seulement d'écriture, mais de réalisation de cette série, qui a d'ailleurs été nommée 15 fois aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision en 2020. Et elle en a remporté 7. Autre fait très important, il n'y aura pas de saison 2. En effet, Damon Lindelof a estimé qu'en dépit du succès de la série aux États-Unis, il n'était pas du tout utile de surfer sur la vague et de proposer une suite dans laquelle il n'aurait de toute façon pas su quoi raconter. C'est plutôt honnête, je trouve, pour une série américaine et pour un médium qui a tendance à user jusqu'à la corde ses concepts. Alors, si vous êtes fan de comics ou tout simplement de bonnes séries télé, si vous avez envie de voir de jolies images, si vous avez envie de voir une histoire qui tient la route, je vous conseille de vous ruer sur Watchmen, disponible sur OCS, ou bien alors en DVD ou en Blu-ray.
Cinémag, avec Cédric Sequinel.
Et nous voici de retour pour cette deuxième partie de Cinémag. Alors, nous allons quitter le monde sombre et inquiétant et torturé des Watchmen pour nous diriger vers des lieux beaucoup plus ensoleillés, à savoir l'Égypte des Pharaons, avec le documentaire « Les secrets de la tombe de Saqqara », disponible depuis la semaine dernière sur la plateforme Netflix. Si on peut reprocher pas mal de choses à Netflix, moi, justement, les séries un petit peu pour ados, débiles, sans vraiment grand intérêt, on ne peut en revanche pas vraiment transiger sur la richesse et la pertinence de ces films et séries documentaires qui sont la plupart du temps de très grande qualité. Et c'est donc ici le cas avec Les secrets de la tombe de Saqqara, un film documentaire de James Towell. C'est tout simplement passionnant. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2018, le gouvernement égyptien avait annoncé à grand renfort de pub la découverte d'une ancienne tombe inviolée près du Caire sur le site de Saqqara. Il avait même annoncé ça comme une des plus grandes découvertes archéologiques de ces 50 dernières années. La tombe, qui a été construite il y a presque 4500 ans, semble appartenir à un certain Wati, un grand prêtre du roi. Sauf que Wati, personne ne le connaît. Il n'est pas dans les livres, on n'a jamais parlé de lui. Donc ça va être déjà le premier mystère de ce film. Alors vous allez me dire, encore une nouvelle tombe, en plus c'est même pas une tombe royale, du coup on a déjà vu plein de séries documentaires sur des tombes inviolées, sur Toutankhamon, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant et est-ce que ça vaut le coup? Et je vais vous dire oui, parce que la tombe n'a vraiment jamais été visitée, et que comme toutes les découvertes qui concernent l'Égypte ancienne, bah c'est toujours un véritable mystère que de retrouver tous les tenants et tous les aboutissants concernant Wati. Il y a des hiéroglyphes qui ont été effacés, réécrits, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, sa tombe ne correspond pas du tout à celle d'un prêtre royal, donc bah, il va falloir démêler le vrai du faux. Et on va donc avoir affaire à une tripotée de traducteurs, de spécialistes en rayons X, en scanner, de spécialistes en Égypte ancienne, d'anthropologues, bah, qui vont tous livrer en fait une guerre contre la montre pour découvrir qui était Wati et pourquoi bah, sa tombe ne semble pas aussi riche que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors je parle de course contre la montre, car la saison du chantier touche à sa fin. Le ramadan arrive, et les responsables des fouilles ne sont pas persuadés qu'en plus le gouvernement leur octroie une nouvelle année de subvention pour faire leurs recherches. Il faut donc aller très vite, essayer d'obtenir le plus de résultats possibles, spectaculaires, ce serait encore mieux. Si en toute honnêteté, l'enquête autour de qui est Wati est assez classique, ce qui est en revanche sublime dans ce documentaire, ce sont avant tout les images. La photographie, elle est fantastique, et puis bah, les moyens modernes avec des caméras haute définition bah, vont permettre de nombreuses avancées en ce qui concerne bah, la mise en scène des différentes découvertes. On voit chaque personne du chantier au travail, que ce soit les simples ouvriers qui creusent le sable avec quasiment les mêmes instruments que leurs ancêtres, ou bien l'anthropologue spécialiste des squelettes. Vraiment, elle est exceptionnelle, hein. Il faut la voir reconstituer avec minutie les fragments d'os qu'elle retrouve et qu'on lui amène dans des caisses. Elle les aligne par terre, elle essaye de les assembler. Bah, c'est vraiment un puzzle avec des os, hein. Et puis vous allez voir les squelettes qui vont se constituer petit à petit sous vos yeux et aux pieds donc de la spécialiste. C'est vraiment fascinant, hein. C'est pas mon moment préféré dans le documentaire, celui que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est lorsque des ouvriers se rendent dans une sorte de fosse commune, où ils tombent sur des dizaines de momies, mais des momies de chats. Et oui, en effet, le temple, il est situé dans ce qu'on appelle le Bubastéon, un lieu où était révérée la déesse Bastet à tête de chat. Et quelle n'est pas leur surprise quand ils tombent sur une momie de chat, hein, avec des moustaches dessinées sur les bandelettes, etc. Sauf que cette momie, elle fait 1m50. C'est pas vraiment possible hein, pour un chat. Alors du coup, ils vont l'amener à une anthropologue, et je vous raconte pas la tête qu'elle fait quand elle découvre non seulement de la fourrure, mais en plus ce que c'est réellement que cette momie de chat. Alors je ne vous spoil pas, hein, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que c'est vraiment pas un poulet, hein. Enfin peut-être, hein, on sait jamais. Alors, les explications sont nombreuses et variées, des intervenants de très bonne qualité. Le suspense, quant à lui, bah, il est toujours présent, parce que bah, les découvertes n'arrêtent pas de se multiplier durant tout le film qui dure à peu près 1h50. Vraiment, c'est passionnant. L'auteur du documentaire n'hésite pas à animer, en plus, via des effets numériques, les hiéroglyphes censés raconter la vie de Wati, et par la même occasion, bah, nous en apprendre un peu plus sur les coutumes de l'époque. Mais comme je le disais précédemment, les secrets de la tombe de Saqqara ne s'intéressent pas qu'à la vie de Wati et de ses congénères. Ils nous donnent aussi un aperçu du travail de titan que représente un chantier de ce type, de la minutie et de la patience dont doivent faire preuve tous ceux qui essayent de mettre à jour une momie, une tombe, voire un tout petit objet qui a été recouvert dans le sable. Hein. On est tellement émerveillé, on en entend beaucoup, hein, et on est un petit peu déçu à la fin quand même de ne pas aller jusqu'au bout de l'histoire, mais bon, c'est un joli parallèle avec la vie des pharaons et puis notre vie de maintenant. Donc je ne peux vraiment que vous conseiller Les Secrets de la tombe de Saqqara disponible sur Netflix. En plus, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voir sur un écran un pays où il fait beau, où il y a du soleil et où il fait chaud, eh ben, dans cette période un petit peu hivernale, bah, ça donne tout de suite envie de rêver. Voilà, ben, notre émission, elle touche à sa fin, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Cinémag, en espérant que les cinémas, bah, peut-être, réouvrent. Mais bon, on n'est pas très très rassurés. En attendant, prenez soin de vous.
Cinémag avec Cédric Sequinel.